Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'économie peut-elle être sage? On en parle avec un sage en économie, Jean-Joseph Boileau, notre invité, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des économies du monde émergent, particulièrement du triangle Chine-Inde-Afrique, à qui il a déjà consacré ou auquel il a déjà consacré un livre, Chine dit Afrique, en 2013. Il publie aujourd'hui Utopie made in monde, le sage et l'économiste chez Odile Jacob. Un essai d'économie et de philosophie recommandé par Florian Delorme de Culture Monde qui se penche sur diverses initiatives dans le monde, des utopies réelles ou concrètes pour développer, penser d'autres modèles économiques, pour trouver des solutions à la crise de notre civilisation industrielle et à cette mondialisation chaotique. 8 ans après, et à la vitesse où vont les choses, vous continuez donc à penser que la Chine, l'Inde et l'Afrique feraient peut-être le monde de demain. Bonjour à vous, Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic en 2013, le temps vous a donné raison. Il faut toujours continuer à regarder vers ces pays-là, vers l'Asie, vers l'Afrique, pour essayer d'imaginer d'autres modèles.
Mais disons qu'on ne pourra pas changer le monde si 90% de la population mondiale n'y contribue pas. Or, ce dont on s'aperçoit quand on passe comme ça des années sur le terrain, c'est qu'ils pensent un peu différemment. Et que d'autre part, alors qu'on a l'impression que tout va très mal dans ces pays-là, qu'on a au contraire des gisements d'optimisme, de confiance. Je suis même allé les chercher en Chine par rapport à l'image qu'on a de la Chine totalitaire, etc. On s'aperçoit que ce que l'on entend, on va dire, en Europe, sur les limites de cette civilisation industrielle, ben, vous l'entendez là-bas de la même façon, et vous l'entendez avec l'histoire longue, c'est-à-dire à la fois il y a de la géographie, mais il y a aussi de l'histoire longue. C'est-à-dire, vous voyez, dans le livre, on va se balader avec les bonnets jaunes chinois au 1er siècle de notre histoire qui ont mis à bas la dynastie des Han sur des utopies, puisque c'était déjà cela, des utopies qui étaient celles du bien commun.
Ces pays, ce sont des laboratoires de la pensée aussi. Et c'est ce qui est passionnant dans ce livre, Jean-Joseph Boileau, c'est qu'il y a des expériences concrètes que vous avez rencontrées, en tout cas ceux qui les portent, ces expériences-là. Mais il y a aussi des nouvelles façons de penser, des intellectuels qui s'appellent Carlos Serra Jr., qui s'appellent Vijay Kumar, qui s'appellent Danny Roderick. Et eux pensent le monde dans lequel nous vivons. Dans la globalisation, c'est vrai que les idées en général circulent quand même pas aussi facilement que les marchandises. Et c'est bien dommage. Vous aviez envie, en portant leurs paroles, de montrer aussi qu'en décentrant nos regards vers des utopies hors Europe, on avait beaucoup à apprendre en arrêtant de se voir comme le centre du monde et de la pensée.
Oui, parce que vous le savez mieux que moi, on a quand même, et notamment en France, un peu tendance à parler de la patrie, du savoir universel, de la raison, etc. Et on est dans une période inquiétante d'un certain point de vue parce que chacun donne l'impression qu'il veut un peu se refermer sur lui-même. Et en tout cas, c'est l'image, quand je reviens en France, que l'on projette un peu partout. Et on s'aperçoit que tous les matins, vous avez des milliards d'êtres humains qui se lèvent avec des schémas mentaux qui sont finalement assez proches de ce qu'on a appelé en Occident l'utopie, Utopia, livre de Thomas More. Alors, eux ne l'appellent pas utopie parce que, justement, les racines ne sont pas latines, que vous soyez en Chine ou en Inde ou dans la plupart des langues africaines, où on croit qu'on parle le français. Oui, on parle le français, mais on parle d'abord les langues africaines, notamment le swahili. Et donc, mais que derrière ces différences régionales, vous avez un fond commun qui est quand même impressionnant, qui est que les humains aspirent à un monde toujours meilleur. Et c'est ce que le philosophe Cioran, qui est un Roumain, nous a pas mal appris, alors qu'il était lui plutôt un peu cynique dans sa façon de voir les choses. Il dit « les humains sont fascinés par l'impossible ». Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était non seulement aller sur le terrain, rencontrer un peu ces expériences alternatives, mais c'est aussi parler de ces intellectuels, de ces économistes qui, eux, travaillent tous les jours à construire un monde un peu différent. Danny Roderick, c'est sur la mondialisation modérée, et c'est extrêmement important parce que face à on va dire, la crise de la mondialisation, on a un risque de repli xénophobe, nationaliste, etc. Et il dit, lui, voilà, si on conçoit une mondialisation modérée, il n'y a pas de raison de se renfermer tous. Amartya Sen, l'Indien, qui lui est plus connu, mais souvent je me suis aperçu d'abord qu'ils sont très peu dans nos, quand je dis nos, c'est en Occident, dans nos manuels, ils sont très peu enseignés en réalité, et encore moins pratiqués. C'est-à-dire que, par exemple, sur Amartya Sen et sa définition fantastique du développement comme l'épanouissement des libertés, donc ça ne se mesure plus par le produit intérieur brut, la quantité d'argent qui a été accumulée, mais par des indices qualitatifs, d'espérance de vie, de bonheur dans la vie, etc. Eh bien, on s'aperçoit que depuis que 2008, ils ont travaillé sur ce fameux rapport qui avait été pas commandé, mais stimulé par le président Sarkozy, nous n'avons pas changé d'un iota. Donc 2008, nous sommes 2020, et on n'a pas du tout modifié notre mesure de la prospérité, du bien-être. Et donc j'ai trouvé que c'était important de porter aussi les voix de cet autre monde qui pense à la fois différemment et qui en même temps reflète les mêmes aspirations que chacun.
Il y a ébauche de définition hein, de ce mot utopie, assez galvaudé pour certains. Vous venez d'en donner une première définition à travers la pensée et les mots de Sioran. On va peut-être approfondir dans quelques instants aussi avec Paul Ricoeur qui vous est cher et que vous citez de nombreuses fois dans ce livre « Utopie made in monde », Jean-Joseph Boileau. Mais juste d'abord, vous avez parlé de la mondialisation. Qu'est-ce que cette pandémie nous a montré de la mondialisation actuelle, de ses formes? Qu'est-ce qu'elle a révélé de l'état de cette mondialisation, à vos yeux?
Écoutez, vous avez cité Chine Afrique 2013. On voyait bien qu'on allait dans le mur. Et à l'époque, ce qui était montré, c'est qu'on allait un peu dans le mur parce qu'il y avait une sorte d'affrontement entre les grands continents émergents et le club des riches. Ce que la pandémie montre, c'est que nous sommes allés un peu plus loin et que la mondialisation, c'est pas simplement justement une mondialisation des marchandises, c'est au-delà. C'est-à-dire, c'est la pénétration massive de l'espèce humaine dans tout. Et notamment, c'est vrai que ça me frappe de voir en l'espace, je suis pas tout jeune maintenant, donc des quelques années de ma vie, à quel point les mondes naturels n'existent quasiment plus. Donc nous sommes allés mondialiser le monde animal. Allez, utiliser le mot tel qu'il est. Je ne dis pas que les virus n'existaient pas avant. Ils existaient avant, donc il faut faire attention. Il faut être pondéré. Mais en l'occurrence, d'après ce que j'ai compris, discuté avec les uns et les autres, on voit bien que cette catégorie des coronavirus, et il y en aura d'autres qui vont émerger avec le changement climatique et ce que probablement la Sibérie va nous relâcher comme virus qui existait il y a des années, qui avait disparu, enfin des années, des siècles, c'est que nous voulons toujours pousser plus loin cette, non pas exploitation, mais cette destruction de ce qui nous entoure. Donc je pense que c'est bien qu'il y a toujours dans les mauvaises nouvelles de bonnes nouvelles. On verra comment on va s'en sortir, mais j'espère en tout cas qu'on lit ce livre avec un sentiment de confiance dans l'avenir. Les êtres humains ont, depuis la nuit des temps, effectivement améliorer la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes par des essais-erreurs, dont des accidents, et de trouver ensuite les solutions communes. Donc je pense que cette épidémie est un wake-up call, les gens disent, mais c'est une alarme supplémentaire, et je reste persuadé, pour ce que j'ai vu, et il faut vraiment que les Français en aient conscience, que sur la Terre, partout, des gens s'attaquent à ces problèmes, à leur mesure, avec leurs solutions, et c'est ce que j'ai appelé les utopies réelles, qui, par rapport à ce qu'on a connu, nous, au 18e, 19e siècle, ne sont plus des grands mouvements révolutionnaires, mais sont des mouvements patients, très appuyés sur les sagesses populaires héritées. Donc j'utilise beaucoup de proverbes, notamment d'histoires, des fables, pour montrer comment cette sagesse est inscrite dans les mentalités collectives et qui changent le monde, et je pense qu'ils le changeront.
On va écouter Paul Ricoeur donner sa définition de l'utopie avec cette très belle archive dénichée par Jean Bulot dans la grande besace des entretiens littéraires de l'INA. Une mine, nous dit-il. On écoute Paul Ricoeur.
L'utopie a une fonction justement de contrepartie de l'idéologie en proposant le nulle part, puisque utopie veut dire le lieu qui n'est nulle part, qui est opposé au lieu où nous sommes, comme je disais tout à l'heure, d'où parlons-nous? C'est la question de 68, d'où parlez-vous? Ben, on parle toujours d'un lieu d'appartenance. Et alors, l'utopie, c'est un lieu de non-appartenance, c'est un lieu de nulle part. Alors, est-ce que l'utopie n'a pas une fonction, qui est précisément de corriger l'enfermement dans l'idéologie? C'est le côté anti-idéologie qui me paraît important. Et alors, est-ce que nous n'avons pas toujours besoin de rêver d'un ailleurs pour habiter correctement le lieu où nous sommes? C'est un peu l'idée du voyage, ça touche quand même à des choses très profondes de notre culture, l'itinérance. Hein. Actuellement, les voyages jouent un peu ce rôle-là, le tourisme, à bels égards. Il y a un côté utopique, des variations sur notre appartenance en étant ailleurs.
Voilà, on se demande depuis plusieurs semaines avec les invités de la Grande Table des Idées pourquoi on ne rêve plus, pourquoi les enfants ne rêvent plus, mais les adultes non plus. Peut-être justement, comme le dit Paul Ricoeur, parce qu'on ne voyage plus, pas simplement nos corps, hein, mais aussi nos imaginaires. Paul Ricoeur nous le dit, l'importance de rêver d'un ailleurs pour essayer d'habiter correctement le lieu où nous sommes. C'est aussi ça le projet de votre livre, Jean-Joseph Boileau. C'est trouver ce lieu nulle part, cet ailleurs qui nous fait réfléchir.
C'est pas du tout ce que je cherchais, parce que lorsque je rencontre Odile Jacob, qu'on dit on va donner une suite à Chine Afrique, je lui pose je lui dis mon sujet en ce moment c'est l'utopie, mais sous un angle qui était très négatif, parce que le mot utopie a une résonance très négative, et notamment un grand essayiste français en a fait la mère de toutes les dictatures, quand même, faut le dire. Et c'est en cheminement sur ces pays, enfin dans ces pays, que je me suis rendu compte que non, il y a des gens qui n'ont pas rêve au sens d'ailleurs du rêve éveillé, mais qui veulent un monde meilleur, qui aspirent à un monde meilleur, non pas le meilleur des mondes d'Huxley, qui est celui vers lequel on a aussi évidemment un risque d'aller, mais vers un monde meilleur. Et c'est la lecture, et je vous remercie de ce son, c'est la lecture d'un philosophe, et je dis souvent d'ailleurs que les premiers économistes étaient des philosophes, que Adam Smith est un philosophe, que Locke est un philosophe, et donc c'était bien, et qu'Amartya Sen est un grand philosophe aussi d'ailleurs. Et c'est en lisant, par hasard, cet essai idéologie et utopie qui est en fait un ensemble de conférences qu'il va donner aux États-Unis, qui est très peu connu en France, qui est très peu lu ce livre, que je découvre quelqu'un qui me donne une architecture, un intellectuel pour comprendre que l'utopie, enfin, une société sans utopie est une société sans dessein, c'est ce qu'il dit. Et que y a un mouvement de yin et de yang, comme disent les Chinois, entre l'idéologie qui est une fonction intégratrice à un moment donné, c'est pas négatif du tout, mais qui, cette idéologie devient dépassée, comme on le voit avec notamment le capitalisme et aujourd'hui ces problèmes de changement climatique, d'inégalité, etc. Et ce qui permet de dépasser cette idéologie qui devient réactionnaire, c'est précisément l'utopie. Et alors par contre, je suis allé un peu plus loin que Paul Ricoeur, parce qu'il dit que ce qui tranche entre l'idéologie et l'utopie, c'est-à-dire ce qui permet de distinguer le bon du mauvais de chacun, c'est ce qu'il appelle le jugement de convenance. Et c'est en fait en Asie, en Orient, que je vais trouver la meilleure définition de ce qu'il appelle le jugement de convenance, et qui s'appelle tout simplement la sagesse. Qui est un mot chez nous, là, par contre, qui n'a même pas de consonance. Il n'existe pas.
On y arrive. L'utopie, vous citez aussi Ernst Bloch, hein, n'est pas la fuite vers l'irréel, c'est l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. C'est aussi ce que nous disait d'une certaine manière Thomas Boucher, qui a réfléchi dans un petit livre consacré aux utopies chez Anna Moza, à ce terme, à son histoire et à ses résurgences. De l'importance, plaidait-il, des utopies pour enrayer les logiques de l'ordre en place. C'est peut-être dans cette définition-là que vous accepteriez aussi ce terme, Jean-Joseph Boileau. Si on en revient effectivement à ces mots de Paul Ricoeur, on comprend qu'il y a des utopies qui ont montré leurs limites. On comprend que l'idéologie va ou peut être contrariée par certaines utopies. Est-ce que la première d'entre elles, c'est celle du progrès à vos yeux, l'idéologie?
C'est un peu le point de départ dans le livre, qui est la contestation, on le voit bien, dans le monde, et là encore c'est général, de ce que on a appelé ou on appelle le progrès. Non pas que les gens contestent le progrès pour le progrès, mais ils en voient aussi toutes les aspects négatifs, parce que derrière cette roue du progrès, il y a des gens qui sont broyés tous les jours. en un tout le mouvement de renaissance de l'agriculture dite naturelle, et tout simplement, non pas le refus du progrès, mais le refus d'un la révolution verte qui a entraîné un empoisement de toutes les nappes phréatiques, qui a entraîné l'apparition de cancers, qui met sur le marché des fruits, des légumes, des céréales qui sont mauvaises pour la santé. Donc, le point de départ dans l'écriture a été de poser la question, les économistes et le progrès. Est-ce que les économistes ont une définition du progrès, puisque c'est ça qu'ils visent, les économistes, qui est correcte? Et c'est vrai que la question méritait d'être posée. Je pense avoir trouvé un truc, qui n'est pas à débattre, mais qui est que le progrès humain, s'il n'est pas au centre de tous les progrès, à la fois économiques, politiques, scientifiques, eh bien, ne peut pas progresser avec les autres, parce que les progrès, chacun dans leur domaine, souvent se font contre l'homme, contre les humains. Le progrès économique, on l'a vu au moment de la révolution industrielle en Occident, a été une machine à broyer les êtres humains. Le progrès scientifique dont on parle autant aujourd'hui avec les vaccins, eh bien, on sait qu'il est à l'origine aussi de déviances qui sont terribles. Les guerres mondiales ont bien été l'expression de ces fameux progrès.
Voilà, vous parlez de cette prospérité, de ce gâchis écologique de quelques-uns qui ne sont possibles que parce que la moitié du monde vit dans la pauvreté matérielle. Autrement dit, ce progrès n'est pas mauvais en tout, loin de là, mais ses bénéfices ont surtout été inégalement répartis. Et vous citez aussi tous ces penseurs du siècle dernier qui ont critiqué le progrès et qui déjà nous alertaient. Le monde est pris, analysez-vous, Jean-Joseph Boileau, entre le consensus de Washington, libéral, et le consensus de Pékin, autoritaire, qui partagent la même idéologie productiviste du progrès. Deux modèles économiques et écologiques qui se révèlent aujourd'hui insoutenables. Mais dans la crise actuelle, c'est à nouveau quand même les deux pays, les deux modèles qui semblent tirer leur épingle du jeu. Comment vous l'expliquez? C'est du
court-termisme. Du tout. Non, ni les États-Unis ni les Chinois ne vont évidemment s'en sortir. Enfin, je veux dire, il faut être clair. Le plan de relance de Biden, par exemple, qui est une absurdité sur le plan des défis de la planète, Ça peut se comprendre sur le plan macroéconomique de créer des emplois, etc., etc. Mais sinon, remettre 2000 milliards sur la table, alors même que on voit bien qu'on est face à un monde fini et qu'il y a 80% de la population qui n'a même pas accès à la satisfaction des besoins de base, n'est pas une bonne réponse. Le modèle chinois, et le modèle, moi j'appelle de Pékin, parce que la Chine, c'est grand la Chine, ça. Et Hong Kong, Taïwan, tout ça, c'est la Chine aussi. Mais le modèle de Pékin est un modèle qui est pas celui de, je pense, du totalitarisme soviétique, c'est celui qui est très bien montré par Aldous Huxley. Donc c'est la société de surveillance avec une prospérité et simplement la majorité de la population est plutôt gagnante au système, notamment les classes moyennes. Bon. Et ce modèle n'a pas d'avenir parce qu'on le voit bien avec la façon dont les Hongkongais, les Taïwanais, mais aussi en Chine même, je raconte en Chine, comment dans mes contacts de tous les jours, je vois qu'il y a une résistance par rapport à ce système. Et pour les gens qui aiment bien lire les romans policiers, je leur dis toujours... Vous avez Xiaolong Chu, qui est auteur d'une vingtaine de romans policiers, les enquêtes de l'inspecteur Chen, qui vous montre que le système ne tient pas. La population chinoise, dans son histoire, s'est rebellée. Ce que je dis, la loi des dynasties en Chine est de chuter, la loi des utopies est de les faire chuter. Quant au modèle américain, on sait bien qu'il n'est pas soutenable dans toutes ses composantes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces deux modèles vont chercher à s'affronter et à recréer derrière chacun d'entre eux des sortes de petites souverainetés ou des suzerains pour les accompagner dans cette nouvelle guerre froide. Je pense que l'humanité n'ira pas vers cette guerre froide.
Alors allons voir ailleurs, allons regarder d'autres expériences, d'autres modèles, comme vous l'avez fait pour ce livre « Utopie made in monde », Jean-Joseph Boileau, avec l'Inde, ce grand pays dirigé depuis 2014 par le Premier ministre Narendra Modi, du Parti nationaliste hindou. C'est un modèle écologiste catastrophique, vous le rappeliez. L'Inde compte parmi les pays les plus pollués aujourd'hui de la planète, et cette révolution verte qui repose sur le modèle aussi que vous évoquiez, est en train de tourner au cauchemar. Vous avez rencontré un monsieur, Vijay Kumar. Qui est-il? Est-ce que vous pouvez évoquer son projet à lui?
J'ai rencontré deux personnes, Vijay Kumar et puis ce qu'on appelle en Inde le gourou, c'est-à-dire le gourou au sens indien, c'est-à-dire son professeur, qui s'appelle Subhash Palekar. Et j'ai passé des semaines entières avec les deux. Et ça m'a rassuré aussi sur l'avenir de la planète. Il faut être très confiant là-dessus.
Vous vous êtes laissé gourouiser, en fait.
Alors, Non, mais Subhash Palekar, c'est une sorte de Gandhi du 21e siècle. Il faut voir comment, quand il donne des conférences sur les méthodes de l'agriculture naturelle, c'est-à-dire à la fois les agricultures, enfin les méthodes agricoles ancestrales qui ont été prouvées, l'utilisation par exemple des excréments des vaches.
Ah, bah vous voulez qu'on écoute d'abord ? Vous voulez qu'on aille à
Sikkim ? Ça serait
bien d'écouter. Oui, on y va et puis on en reparle.
Sur leur petite parcelle, Ken Kumar Chetri et ses parents ont donc fait comme tout le monde. Du bio, exclusivement.
Tu enlèves les feuilles ?
Oui, celles qui sont jaunes.
Comme insecticide, ils utilisent un mélange de plantes et d'urine de vache. Et comme engrais, un processus on ne peut plus naturel.
On met des feuilles mortes qu'on recouvre de terre pleine de lombriques. Les vers de terre vont manger ces feuilles et ensuite ils vont produire un compost naturel.
En fait, ils n'ont pas eu le choix. L'utilisation de fertilisants et de pesticides chimiques est désormais un crime, puni de 1200 euros d'amende et de 3 mois de prison. La transition vers le tout bio a été douloureuse.
Oui, ça a été difficile les premières années. Les produits chimiques avaient rendu le sol dur comme de la pierre. Ils ne donnaient plus rien. Mais aujourd'hui, on a plus de légumes, ils sont plus gros et le rendement est meilleur.
Ce succès biologique, c'est pourtant l'exact opposé de la politique agricole de l'Inde. La région du Sikkim est coincée entre l'Inde et la Chine, deux des plus gros consommateurs de pesticides au monde. Une région verte au milieu de deux géants chimiques.
Sikkim, un petit îlot dans un océan de pesticides, hein, aussi. Vous étiez en train de nous raconter. Lui, il connaît, hein, Kumar aussi, ce lieu, cette expérience-là. Alors, qu'est-ce qu'il propose ?
Alors, Vijay Kumar, lui, c'est le haut fonctionnaire, ce qu'on appellerait l'énarque, puisque ça a très mal.
Bientôt, il va falloir dire autrement.
Bien sûr, voilà, il faudra dire autrement. C'est le haut fonctionnaire qui est convaincu que quelque chose ne va pas dans le système. Et qui trouve donc auprès de Subhash Palekar, qui est un fermier qui a fait des études. Donc c'est le progrès. Hein. Souvent, les gens pensent que on revient à des méthodes traditionnelles et qu'il n'y a pas de progrès, pas du tout. On prend les méthodes traditionnelles, on les modernise, on va les actualiser. Et donc c'est Subhash Palekar qui a mis ça au point pendant une dizaine d'années, tout seul, dans son coin, dans le Maharashtra. Et Vijay Kumar, donc c'est le haut fonctionnaire qui a l'échelle d'un état entier de l'Inde. Donc, voyez, on n'est pas dans de la petite expérimentation, ce que j'appelle les utopies réelles dans ce livre. Ce ne sont pas des expériences. C'est 16 millions de familles paysannes dans l'Andhra Pradesh qui développent d'une façon non autoritaire, par l'exemple, des méthodes. Alors, faut pas appeler ça la permaculture. Moi, j'aime bien leur expression. C'est l'agriculture naturelle. On peut dire un peu organique. Allez, ça passera mieux auprès de nos auditeurs. Qui développe donc un nouveau type d'agriculture dont le modèle économique, c'est mon métier. C'est ça que j'ai essayé de comprendre. C'est que c'est pas seulement un problème écologique. C'est qu'il y a un modèle économique derrière qui permet de donner des emplois alors que dans tous ces pays-là, la crise de l'emploi est très très grave. La Chine a à peu près réussi pendant des années parce qu'elle a été l'usine du monde et qu'elle a fermé toutes les usines dans le reste du monde. Mais pour des pays comme l'Inde ou pour l'Afrique, le problème de l'emploi se pose d'une façon terrible. Donc, fourniture d'emploi, on est plus ce qu'on appelle labor saving, donc on utilise davantage des techniques intensives en travail. La nature est respectée, ce qu'il disait sur les sols, j'ai pu le voir. Les sols, y compris en Chine, d'ailleurs, sont de plus en plus tassés. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle on utilise de plus en plus d'engrais, de pesticides, etc. C'est-à-dire c'est une agriculture hors sol. Là, on réintègre ce type de problématique qui est comment vit la nature, comment l'homme peut accompagner cette nature dans son travail d'extraction, donc de... Ben, il faut manger des fruits, légumes, etc. C'est passionnant parce que c'est des dizaines de millions.
Mais on voit la sagesse poindre son nez, hein, dans ce que vous venez d'évoquer. Mais ça marche à petite échelle. Ça peut être envisageable à plus grande échelle aussi. Il y a en ce moment quand même en Inde, enfin depuis quelques mois, une grande mobilisation contre la réforme qui vise à libéraliser les marchés agricoles. Est-ce que l'Inde est en train de prendre cette route-là, ce chemin-là ?
On verra si... ce que j'ai appris au travers de ce livre, c'est que dans l'histoire, rien n'est déterminé à l'avance. Donc, tout dépend de notre travail. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui sont un tout petit peu fatigués de cette crise du coronavirus, etc. Je leur dis toujours, ça dépend de vous aussi en très grande partie. Donc on va voir ce que cela va donner en Inde. Mais au moins, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est par millions de familles d'agriculteurs que ce mouvement a démarré. Et que lorsque vous avez 250 millions d'agriculteurs en grève, comme aujourd'hui encore, contre cette privatisation des prix et l'ouverture de l'agriculture aux grands groupes, j'observe qu'en Afrique, donc ça, vous voyez, ça me rassure, c'est pour ça que c'est important de comprendre d'où on parle. Lorsque vous avez 1,5 milliard d'habitants en Afrique, qu'on va vers 3 milliards d'habitants, ce qui est expérimenté sur ce continent est un élément déterminant de l'avenir de la planète. Or, ce que j'ai pu voir en Afrique, et pas seulement lorsque je suis allé avec Pierre Rabhi en Mauritanie, dans ce petit village du désert, mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a manifestement dans ces pays dits émergents un mouvement convergent vers des pratiques plus humaines, plus écologiques, et qui s'explique largement par le fait que précisément la culture occidentale est une culture de la modernité pour la modernité qui a détruit tout le passé, alors que dans ces pays, ce qui me frappe, c'est la non-rupture précisément par rapport au passé. Donc c'est l'inscription de l'avenir dans les cultures du passé.
Jean-Joseph Boileau est notre invité pour quelques minutes encore jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de son nouvel ouvrage Utopie Made in Monde, le sage et l'économiste. Il est avec nous, France Culture, il est 13h22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
La sagesse n'est pas ce qui gouverne le monde aujourd'hui, mais elle n'est pas à inventer. Elle a déjà existé et été régulièrement aux commandes des affaires de l'humanité, rappelez-vous Jean-Joseph Boileau dans cet ouvrage. À la question générale, est-ce que l'économie peut être sage? On va écouter les mots d'un théoricien, du théoricien de la décroissance, Serge Latouche, extrait d'Avoinu.
Qu'est-ce que c'est que la décroissance, au fond, hein ? Derrière le slogan provocateur, c'est la rupture avec l'occidentalisation du monde. Et par conséquent, c'est la réouverture de l'histoire à la diversité. Et par-delà la diversité, on retrouve finalement une sorte de fond commun universel qu'on appelait la sagesse. Et donc toutes les sagesses sont toujours basées sur la capacité de s'auto-limiter, que ce soit le stoïcisme, l'épicurisme, le bouddhisme, les sagesses africaines, les sagesses amérindiennes, etc. Donc on peut retrouver comme ça des quantités de grands ancêtres. C'est extraordinaire, il y a chez Épicure effectivement des phrases, etc., qui nous parlent encore aujourd'hui et qui font sens par rapport à nos pratiques et à nos excès.
Et donc pour vous, il n'y a pas d'anachronisme ?
Si, il y a un anachronisme, mais bien évidemment, c'est à la fois, on voit bien qu'ils sont dans un autre monde, mais en même temps, tout ce qui est humain nous parle. Et donc ça nous parle encore.
Là, il y a un exemple de sagesse dans ces mots de Serge Latouche, tel que vous l'entendez, Jean-Joseph Boileau.
Oui, on a beaucoup critiqué le mot décroissance, le courant de la décroissance. Alors que, pour connaître un peu Serge Latouche, ce que vous avez choisi comme extrait est très très bien, très intéressant. Il n'a pas opté pour une idéologie de la décroissance. Il a observé que ce monde dit de la croissance allait dans le mur et que ce qu'on observe, et ça je l'ai vécu peut-être plus que lui d'une certaine façon, on voit bien que ce qui converge entre la Chine, l'Inde, l'Afrique, mais aussi l'Occident. Vous avez vu que j'ai consacré une place importante à l'histoire de la sagesse en Occident, en montrant comment, manifestement, entre le moment grec et le moment romain, il y a une rupture. Au nom de la raison, l'Occident va oublier. C'est une amnésie de la sagesse. Et ce que dit Latouche là, c'est que à chaque fois qu'il y a une posture dite de sagesse, on observe qu'il y a la frugalité, la mesure, la prudence. Et que c'est ça que je suggère dans ce livre, c'est de reconquérir, là, nous, en Occident, cette sagesse, de façon à être en phase avec ce qu'il peut y avoir dans les autres continents du monde, c'est-à-dire une place encore essentielle à la sagesse. La sagesse, c'est ce proverbe africain, vous savez, qui est « Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Si tu ne sais pas, si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. » Et cela, c'est partout. En Chine, en Inde, vous avez un vieux fond de culture dite de la sagesse. On va me dire, oui, mais regardez, dans ces pays, ils s'affrontent. La Chine, c'est le totalitarisme, etc. Je dirais à mes amis, enfin, je leur dis que ce n'est pas l'Occident qui est en cause toute seule, mais que nous avons inventé, au nom de la raison, un monde de compétition, un monde d'affrontement, dans lequel, effectivement, il n'y a plus place pour la sagesse.
Est-ce qu'il y a une place pour la sagesse dans l'économie? En gros, c'est la question que vous posez. Est-ce que l'économie peut être sage? Est-ce que l'économie peut incorporer cette part de sagesse, de frugalité, de raison à l'intérieur?
Oui, mais dès qu'on dit frugalité, on dit quoi? On dit précisément sagesse, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est pas contradictoire avec la finalité même de nos économies aujourd'hui?
Le premier, le grand libéral français, Jean-Baptiste Say, définit l'économie de la façon simple. L'économie est fille de la sagesse, dit-il, et de la raison. Alors, on se demandait pourquoi il mettait cela en avant, et il répond de façon très simple. Elle sait se écoutez bien, 1803, elle sait se refuser le superflu pour se ménager le nécessaire. Qui d'autre que cet économiste libéral qui a été vilipendé par beaucoup de révolutionnaires pour des raisons qui pouvaient d'ailleurs se justifier a mieux défini l'économie. L'économie, précisément, c'est faire attention à l'usage que nous avons de nos ressources. Et les économistes, c'est vrai, ces dernières décennies n'ont pas suffisamment contribué à une sagesse du monde. Et donc le livre est un peu une incitation. Dans la dernière partie du livre, il y a une dizaine d'auteurs qui sont repérés comme ayant contribué très largement à une économie de la sagesse. Et donc il faut nous emparer de leurs travaux sur la mesure du développement humain, sur l'écologie, pour avancer.
2021, l'économie et le monde en sont là. Vous le dites vous-même, ces utopies, elles ne rendent pas inéluctable la perspective d'un effondrement, ni celle de la dystopie d'une société de surveillance. Quelle est votre définition contemporaine de l'utopie? Qu'est-ce que c'est ces utopies made in monde? Et on terminera là-dessus, Jean-Joseph Boileau.
Oh bah, une utopie, c'est assez simple. C'est un idéal d'un monde meilleur, à défaut donc d'être le meilleur des mondes. Il y a quelques utopies qui ont dégénéré autour de cette idée du meilleur des mondes, mais en général, l'utopie, c'est le rêve, c'est l'espoir d'un monde meilleur, et c'est des gens qui ont une position morale, une éthique, de s'engager pour la collectivité, pour qu'elle soit meilleure. Quand vous regardez bien autour de vous, c'est impressionnant. Tous les jours, à votre porte. On n'a pas parlé de la France, mais il y a des centaines d'initiatives qui contribuent et qui travaillent dans cette perspective-là.
Et vous les racontez, notamment Asie, Afrique, on le disait, ce continent, l'Afrique, où les utopies semblent jouer un rôle majeur aujourd'hui. Vous y revenez sur ces utopies de résistance. C'est plein d'exemples et aussi de philosophie et de sagesse. Ça s'appelle Utopie Made in Monde et c'est le titre de ce nouvel ouvrage de Jean-Joseph Boileau qui paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup à vous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jeanne Aléos, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées. Merci à Marianne Chassor qui a coordonné cette émission à distance avec l'aide de Valentine Alloin et de Cathy Renaud. Thomas Beau à la réalisation avec Baptiste Lénard à la technique.